Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et pour débriefer l'actu pendant une heure ce soir, nous avons Bruno Guguier-Minetti qui est avec nous en visio depuis le Québec. Salut mon Bruno.
Salut, je vous dis bonjour et ou bonsoir chez vous.
Quelle heure il est là chez toi?
Ah, il est 13h30.
Eh bien voilà, Bruno sort du déjeuner.
Voilà.
Est-ce que tu as la canicule au Québec en ce moment, mon cher Bruno?
Écoute, nous, on ne se plaint pas parce qu'il fait 25 degrés et ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez présentement.
Bon, bah écoute, en tout cas, merci d'être là. Bruno Guguier-Minetti qui est journaliste, bien sûr, animateur de son carnet de l'actualité numérique et de ses 120 secondes de tech que vous pouvez écouter tous les jours, à loisir, n'hésitez pas, on en devient vite accro. Nous avons aussi avec nous Enguerrand Renaud. Salut Enguerrand.
Salut François.
Directeur de la rédaction de Satellifact. Voilà, pour tous ceux qui travaillent dans les médias, qui sont dans le spectacle, le divertissement.
Le cinéma.
Le cinéma, c'est le média à suivre.
Voilà.
Et voilà, pour avoir des informations de toute première fraîcheur sur ces sujets. Et Tristan Nitto est avec nous aussi ce soir. Salut.
Bonsoir.
Tristan. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Autoc Technologies. On va parler donc de Huawei qui aurait trouvé, écoutez bien, la formule gagnante pour rivaliser avec les meilleures puces du marché. Il ne cherche plus en fait aujourd'hui à copier des technologies dont il est coupé à cause d'embargos, notamment américains, mais plutôt à développer une nouvelle façon de faire des puces. Par exemple, une page blanche, avec l'objectif d'être dans 5 ans au même niveau que les produits américains les plus performants du marché. Erwan Morris nous raconte tout ça.
Pékin rêve d'autonomie stratégique, Huawei est peut-être en passe de lui offrir. Le géant chinois travaille d'arrache-pied à rattraper son retard face à des Américains loin devant. Privé des machines de gravure, d'ASML essentielles à la fabrication de puces haute performance pour alimenter les systèmes d'IA, Huawei creuse une voie parallèle, une nouvelle architecture pour la première fois basée sur la loi de Tau plutôt que la loi de Moore. En d'autres termes, une technologie qui s'attache à réduire le temps de propagation du signal plutôt que de réduire la taille des transistors. Et c'est donc avec cette technologie que sa toute dernière puce Logic Folding va être industrialisée cette année. Une contrainte, malgré tout, l'important risque de surchauffe de ce système. Les ingénieurs de Huawei vont devoir trouver des solutions pour dépasser cette limite avant d'espérer un déploiement dans les data centers. Ils visent 2031. En attendant, cette puce devrait être intégrée pour la première fois à l'automne dans son smartphone, le Mate 90.
Voilà, c'est intéressant parce que, bien sûr, aujourd'hui, on le voit, l'or technologique, c'est les puces. Et celui qui tient la recette de la puce la plus puissante, en tout cas la plus, on va dire, passe-partout, a tout compris. On le voit aujourd'hui avec TSMC, ASML, qui est notre champion européen, qui, lui, fabrique les machines qui permettent, en fait, d'imprimer ces processeurs, se portent très, très bien aussi. Comme le disait et l'expliquait Erwan, depuis des années, aujourd'hui, Huawei subit, en fait, les embargos américains et n'a plus accès à ces dernières technologies. C'est intéressant de voir que dans la difficulté, l'humain, mais d'une manière générale, les Asiatiques arrivent à trouver des solutions pour non seulement rivaliser avec, s'affranchir des technologies occidentales, mais aussi rivaliser technologiquement. Quel est ton point de vue, Tristan? T'as suivi un petit peu cette histoire?
Ah oui, il va falloir faire la part des choses parce que, c'est intéressant. Ils se mettent à mettre des transistors, à empiler des transistors. Et ça, en fait, il y avait déjà des recherches sur le sujet, faire de la 3D, enfin, au sens de empiler. Donc, ils ont utiliser le mot 3D, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est au lieu de faire ça sur quelque chose de plat, et ben en fait on le fait en deux,
oui, c'est
en
comme
trois dimensions.
Au lieu de faire une maison plein pied, tu fais des immeubles. Quoi.
Voilà, c'est ça. Avec les problèmes bien soulevés, c'est que ça pose des problèmes de refroidissement, parce que ton transistor au milieu, il est isolé du reste.
Et tous les étages chauffent.
Voilà, exactement. Comme tu peux ne pas, c'est dans ton immeuble, si ton voisin il chauffe bien en dessous, t'as pas besoin de. c'est un peu le même truc.
Ça. Les voisins ne chauffaient pas en ce moment. Hein. C'est pas la peine, s'il vous plaît.
C'est pas la peine. Par contre, s'ils ont la clim, ils peuvent la mettre plus fort.
Oui, un peu plus fort. Ça nous irait bien.
Et par contre, après, c'est savamment habillé de marketing, c'est-à-dire que leur loi de taux, ça remplace la loi de Moore, etc. En fait, la loi de Moore, c'était juste de la planification industrielle, en se disant, oh, bah, si on continue à investir en R&D, on devrait arriver, ou on se fixe comme objectif d'être deux fois plus puissant tous les deux ans. Bon, en fait, ils appellent ça loi de taux, mais ils font de la loi de Moore eux aussi, quoi. C'est juste qu'ils ont trouvé un nouveau nom comme si c'était absolument révolutionnaire. L'innovation est intéressante, mais c'était pas les seuls à travailler sur le sujet. Et ils sont quand même drôlement en retard. Ils vont peut-être être les premiers à faire beaucoup de circuits en 3D. Ok, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça va mettre la pression aux autres industriels, mais ils vont peut-être rattraper un peu de leur retard.
Ouais, ils disent que Enguerrand, dans 5 ans, ils seront au niveau des Américains. Ils ont rattrapé leur retard avec cette
technologie. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ce qui est
c'est la loi de l'échelle de taux. Exactement.
Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que Huawei se réinvente toujours sous contrainte. Effectivement, ouais. En 2020, on l'a retiré. Il était numéro un des smartphones. On l'a retiré. Il a réussi à faire un OS totalement chinois et qui marche très bien parce qu'il a retrouvé. Il est premier en Chine, qui est quand même le premier marché mondial. Là, on lui interdit d'avoir accès aux dernières technologies et surtout à ASML. Si t'as pas de machine à ASML, tu peux pas graver. Hein. Non. C'est aussi bête que ça. Effectivement, tous les fondeurs, les TSMC, tout ça sont arrivés. On est à entre 5 et 2 nanos, même en dessous de 2 nanos. Et là, c'est impossible sans machine à ASML. Donc, ils sont obligés de se réinventer. Effectivement, derrière, est-ce que la réalité de la loi de taux est aussi intéressante que ça? Moi, j'avais vu, effectivement, dans quelques labos, dont un à Grenoble, faire des puces en 3D. Beaucoup de gens travaillent dessus. Est-ce que c'est aujourd'hui au niveau industriel? Parce que le problème quand on est dans les puces, c'est que c'est des niveaux industriels stratosphériques, quoi. Donc on fait pas un prototype. Donc ça, il va falloir voir si on est déjà passé ce qu'on dit à l'échelle. Et puis on peut vu ce qu'ils ont fait les dernières années, on peut leur faire confiance. Ils vont trouver des solutions pour contourner tous les embargos qu'on leur a mis. Alors dire après qu'ils vont rattraper les numéros 1 mondiaux d'ici à 2030-2031. Ouais. Écoute, on en discutera, ça, mais bon, je suis franchement pas sûr.
Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je trouve ça intéressant de les voir ressortir. On a l'impression qu'ils avaient été lancés dans les câbles et à chaque fois, ils reviennent. Mais là, ce coup-ci, ce que je trouve intéressant, oui, il y a le contexte où, justement, on leur avait fermé tous les accès pour utiliser des technologies qui existaient déjà. Mais là, il y a aussi un contexte politique où l'administration chinoise a pas fortement recommandé, mais a obligé toutes les agences, tous les ministères, tous les tenants et aboutissants de l'administration chinoise d'utiliser uniquement du matériel qui va être fabriqué, mais de la puce jusqu'à l'appareil, là, qui est d'origine chinoise. Alors évidemment, il y a le vent, il y a toute une industrie finalement qui attend, et moi j'ai bon espoir de les voir, probablement même avant 5 ans, d'arriver avec quelque chose qui pourrait faire la différence sur le marché. Évidemment, ça va rendre nerveux des gens comme Nvidia et des voisins taïwanais, parce que Huawei nous a montré avec le temps que quand ils veulent, ils le peuvent sous la contrainte, et je pense que tous les éléments sont là pour qu'ils arrivent une fois de plus à s'en sortir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en train de gagner leur indépendance au niveau des processeurs, au niveau des logiciels, parce que la conclusion d'Erwan était très intéressante sur le fait que ils vont sortir un prochain smartphone avec cette technologie, c'est-à-dire que c'est même pas encore du prototypage, ça existe déjà chez eux, et ils ont leur propre Android, ils ont créé leur propre soft, leur propre processeur. C'est incroyable de voir à quelle vitesse la Chine arrive à avoir son indépendance technologique totale.
Ça, en fait, on les a un peu forcés à contourner l'obstacle en leur disant « Ah, c'est fini, vous avez plus accès aux machines ASML ». Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Et ça, c'est bien avec le gouvernement qui suit, qui encourage, donc qui pousse à l'achat de technologies locales. Évidemment, ça fait un appel d'air et ça permet de, parce qu'ils sont suffisamment bons, ça leur permet de libérer un marché pour la techno chinoise et la faire avancer à marche forcée. C'est fort.
Est-ce que finalement, enfin oui, vas-y Enguerrand, parce qu'après j'avais une question collégiale sur ce sujet.
Je disais qu'après, il y a une course, la loi de Moore est toujours là, hein, et je disais qu'on en est à 2 nanos, moi je me souviens très bien.
Il y a une partie marketing sur les 2 nanos, hein, il faut se méfier.
Quand on arrivait, on disait on descendra pas en dessous de 7, on est arrivé à 5, on est arrivé à 2, mais c'est quand même c'est pas l'intégralité du marché. Hein.
C'est du très haut de gamme.
C'est du très 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 haut de gamme pour effectivement ça vaut très cher, ça demande ça nécessite des investissements énormes mais gigantesques en milliards pour pouvoir produire ça et c'est pas l'intégralité du marché.
C'est clair.
Voilà. Donc ce que je veux dire, dans le marché mondial, il y a de la place et que Huawei prenne toute sa place dans le marché mondial, ça c'est sûr. Que Huawei soit à la pointe, on the edge, et devant TSMC, ça c'est moins sûr. Voilà.
TSMC.
Ouais. C'est ce qu'il fait.
Bruno, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou j'enchaîne avec ma question?
Non, je pense que tout a été dit. Il faudra voir. Il faut laisser le temps pour.
Moi, ce que je trouve intéressant et assez étonnant, c'est que finalement, en privant toutes les technologies occidentales à la Chine, on leur a donné une émancipation qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginé si on avait continué à leur donner toutes ces technologies.
C'est un dilemme, mais en faisant ça, les États-Unis ont gagné du temps. Parce que encore une fois, ils les ont privés de toutes les technologies en 2020. D'accord. En 2020, Huawei était numéro un mondial. Ils ont reculé. Ils étaient numéro un mondial des smartphones. Les États-Unis, ils savent très bien que les Chinois trouveront d'autres solutions, mais simplement ils achètent du temps. D'accord. Et du temps, c'est extrêmement précieux aujourd'hui parce que en 2020, ils les ont contraints. Et entre-temps, en 2023, il y a eu l'IA. Et donc, les États-Unis avaient encore un coup d'avance sur l'IA. L'important pour eux, c'est toujours d'avoir le coup d'avance. Et si on avait laissé Huawei ou n'importe quel autre Chinois, c'est eux qui auraient eu le coup d'avance sur les prochaines technologies. Et je pense que les Américains, leur obsession, c'est d'acheter du temps.
Oui, c'est sûr. Bruno, t'as pas l'air d'accord.
Non, c'est juste que je repense à une entrevue que j'avais lue avec le grand patron d'NVIDIA et qui disait que pour lui, évidemment, il est partie prenante dans l'histoire, mais il trouvait que pour lui, c'était un échec, l'approche américaine, parce qu'effectivement, ce qu'on faisait, c'est qu'on obligeait les Chinois à trouver leur propre solution. Et qu'à moyen terme, peut-être qu'un peu, comme le disait juste auparavant, l'histoire de on gagne du temps, mais le problème, c'est qu'on avait toujours un genre de contrôle par rapport à la technologie à laquelle on les laissait accéder. Et là, c'est fini. Là. À partir du moment où ils vont trouver leur propre chemin avec leur propre technologie, il n'y en aura plus de contraintes, et là, les Chinois vont partir dans leur sens, et là, on va voir les Américains courir après.
On peut comparer ça avec l'Europe, où les Américains n'ont rien interdit à l'Europe. L'Europe s'est installée gentiment dans son rôle de colonie numérique, où,
on est bien dans les pantoufles technologiques américaines.
On bénéficie de l'effet d'échelle, et donc pourquoi s'embêter à investir, c'est risqué, tout ça. Et aujourd'hui, où la géopolitique est en train de changer, on dit « Ah, mais en termes d'autonomie stratégique, en termes de résilience, ça commence à être chaud ». C'est pas une position.
C'est vrai qu'on n'a pas été incité à investir. Non. Et on l'a pas fait. Ouais. Parce que effectivement, c'était pratique, pas cher, pratique et tout à fait accessible et on gagne.
Oui, et puis on pensait que avec les États-Unis, ça durerait toujours. Après tout, il y avait l'OTAN quand même.
Oui, bien sûr. Des relations privilégiées avec les États-Unis. Bon, voilà, on a SML, malgré tout, on a quelques pépites. Hein. Il y a STMicro aussi, alors qui n'est pas du niveau d'un d'un grand fondeur, mais en tout cas qui est là. Tiens, puisqu'on parle de produits chinois, j'aimerais qu'on enchaîne avec le Trump Phone. Vous avez suivi cette histoire-là quand même.
Pas du tout, il est américain. Enfin, voyons, saisis-toi.
Est-ce que vous seriez prêt
Attendez,
laissez-moi envoyer mon reportage et après on en parle, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il serait taïwanais.
Exactement. Parce que si vous pourriez peut-être remplacer votre smartphone par un Trump Phone, bon après c'est une question de goût, je ne sais pas trop. Hein. Le président américain, vous le savez, a lancé sa propre marque de mobile dont les premiers exemplaires viennent de sortir. C'est un téléphone censé être ultra patriotique, mais qui fait, vous allez le voir, déjà polémique. Anthony Morel nous en parlait dans Good Morning Business.
C'est un téléphone made in USA, mais qui vient d'Asie. Donc, ça fait un peu tâche, forcément. D'où la controverse autour du Trump Phone, le T1, qui vient juste d'être sorti. Il avait été annoncé il y a un peu plus d'un an. Certains avaient cru à une blague, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs retards. Mais non, il est bien sorti, un téléphone. Alors, que je vais décrire, hein. Il est assez voyant. On va dire bling bling.
Il est doré, quoi.
Ouais, il est doré. Voilà. C'est finition dorée.
C'est normal, non?
C'est vraiment Trump Phone avec Trump écrit en gros, le drapeau américain. Pour la petite histoire, ils se sont plantés sur le drapeau américain. C'est-à-dire que le drapeau américain, normalement, il y a 13 bandes et là, il n'y en a que 11. Donc, il y a eu un problème avec la gravure visiblement, ce qui a fait partie aussi de la polémique. Et donc, ce téléphone qui, j'allais dire, en termes de caractéristiques et de performance, est assez classique, téléphone milieu de gamme, il devait être le téléphone des patriotes, le téléphone qui prouve qu'on est capable, dans un contexte de guerre économique contre la Chine, de fabriquer aux États-Unis, de fabriquer de A à Z un téléphone américain. Sauf qu'en réalité, quand on gratte un peu le vernis, quand on désosse ce téléphone, eh ben, on se rend compte que, en fait, c'est une ressucée d'un vieux modèle d'HTC. HTC, c'est une marque taïwanaise, c'est vraiment exactement le même modèle, et quand on ouvre le capot, eh bien, on a à l'intérieur, que ce soit l'écran, le capteur photo, les puces, des composants qui sont en réalité asiatiques, ce dont on aurait pu se douter en réalité, à tel point d'ailleurs que l'entreprise a dû changer son marketing, parce qu'ils avaient dit au début, téléphone made in USA, mais c'était quand même assez trompeur. Du coup, maintenant, c'est présenté comme proudly American, donc un téléphone fièrement américain, ce qui est une formulation un petit peu plus floue. On va dire, ça passe un petit peu mieux. Donc forcément, ça fait grincer quelques dents, même si ce téléphone a quand même été commandé par 600 000 personnes.
Ouais, 600 000 commandes quand même, c'est dingue.
Ah mais tu sais, les pigeons, il y en a beaucoup.
D'un autre côté, ils sont 400 millions. Hein.
Ouais, ils sont beaucoup. Bah, 600 000 sur 400 millions, c'est pas énorme, enfin, en termes de statistiques. C'est clair. Moi, je me demande si on l'allume, est-ce qu'on a Village People avec YMCA et Trump qui fait comme ça, là, vous savez, là.
Comme ça,
ça pourrait être sympa. Enfin, sympa, quelques secondes quand même, faut pas exagérer. Alors, votre point de vue sur cette histoire, parce que c'est quand même assez révélateur et ça vient compléter notre précédent sujet, finalement. Parce que voilà, ce téléphone qui se veut être le patriotisme américain à 100%, bah il est fabriqué à Taïwan, quoi. Parce que aujourd'hui, c'est ça aussi, à mon avis, le sujet qu'il faut creuser, c'est que les Américains sont incapables de fabriquer ça. On ne peut pas fabriquer un téléphone comme ça aux États-Unis.
Il y a deux choses à voir. Tout est fake chez Trump. Même son Trump Phone, tout est fait. Et deux, c'est ce que tu disais. On était passé il y a encore une dizaine d'années, tout était mondialisé. Dans un smartphone, il y avait des composants qui venaient à peu près partout, beaucoup de Taïwan, et il y avait ceux qui assemblaient, donc beaucoup qui assemblaient en Chine. Hein. On parle de Huawei, c'était quand même au début, il assemblait, voilà. Mais on va de plus en plus, et on l'a vu avec le sujet chinois, et on va de plus en plus vers des mondes séparés où on essaye d'avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est une tentative ratée, a priori, hein, puisque. Mais on aura des smartphones 100% chinois, Huawei, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On aura très certainement un jour des smartphones 100% américains.
Mais le paradoxe, ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on aura sans doute un téléphone 100% chinois avant qu'on ait un téléphone 100% américain.
C'est un paradoxe, parce qu'effectivement, la plupart des processeurs, c'est 55% de tous les processeurs mondiaux sont faits à Taïwan. Donc, de toute façon, il va falloir... Et n'oublions pas, il y a aussi, et tu parlais de ST Microelectronics, dans un smartphone, le Face ID, c'est
oui.
ST Microelectronics.
Ah, oui.
C'est un smartphone, c'était l'emblème du produit global, mondial, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, pour des raisons politiques ou stratégique. En faire des smartphones locaux, 100% américains, 100% chinois, alors 100% européens, on n'y arrivera pas, c'est une question. C'est une vraie question. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un smartphone 100% américain, ce n'est pas possible.
Tristan, t'as envie de craquer, hein. Je sens que t'as envie d'avoir ton smartphone.
Il faut que je le dise déjà. Toutes les casquettes MAGA rouges là, elles sont fabriquées en Chine aussi. Et donc en fait, ouais, on est plus à un mensonge près. Il en a vendu des millions. En disant que c'était très très américain, etc. Il y a marqué Made in China dedans et il n'a pas changé. Donc en fait, cet homme-là n'est pas concerné par l'intégrité, la morale ou la vérité. C'est voilà. Donc c'est pas étonnant qu'il nous pipote sur l'origine de son téléphone. En plus du mauvais goût qui est complètement raccord avec la nouvelle déco du bureau ovale. Donc finalement,
c'est vrai que là, poser ce téléphone comme ça sur le bureau de Trump, ça va quoi.
Ouais, moi je l'aurais fait plus gros pour qu'il ressemble vraiment à un lingot, tu vois.
Ouais, 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 c'est vrai. Et plus lourd aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bon, pour être un petit peu plus sérieux, alors peut-être qu'on aura un téléphone européen un de ces jours. En fait, j'ai pas dit tout de suite, hein. Ça, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps et je sais pas si on dispose du temps. De toute façon, on est en train de parler du futur, donc on peut pas le dire. Mais il y a suffisamment de perturbations au niveau de la géopolitique, enfin des choses qui étaient inenvisageables il y a un an dans les relations avec les États-Unis sont devenues, enfin le coup des droits de douane, le coup d'arrêter un dirigeant en Amérique latine, de bombarder l'Iran, etc., de bloquer le détroit d'Ormuz sans demander la permission ou essayer d'embarquer
avec les conséquences mondiales ça sur l'économie.
Donc en fait, on est dans un moment extrêmement perturbé qui abîme la mondialisation. Avant, on pouvait se dire, moi, je vais envoyer un cargo, il va arriver dans 2 mois, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il va arriver. Là, t'as le détroit d'Ormuz, t'as les tarifs, il y a plein d'imprévus, et ce qui fait que ce qui marchait avant, on est amené à le repenser. Et finalement, peut-être que ça va continuer. Peut-être que on va s'embrouiller avec les Américains ou avec les Chinois ou je ne sais quoi, et faire que ils vont l'un ou l'autre des camps va nous refuser, va nous bloquer l'approvisionnement en smartphone ou en puce électronique ou en serveur ou en différentes technologies. On peut très bien entendre les Américains dire ah, on n'a plus le droit aux puces Nvidia haut de gamme. Enfin, j'en sais rien, mais je sais que ça paraît absurde. Mais il y a un an, des tas de choses paraissaient absurdes et elles sont devenues une réalité aujourd'hui. C'est vrai. Donc en fait, la question, c'est vraiment...
Les relations s'enveniment pour que...
Voilà, exactement. Et on est complètement accro au numérique parce qu'on a tout numérisé dans les entreprises, dans les interactions entre l'administration, les Français, etc. Que, en fait, se posent des problèmes de résilience numérique. Si jamais on subit un nouveau choc, à quel point on est résilient, à quel point on arrive à faire tourner les entreprises, l'administration, etc., avec un choc qui serait à venir. Et donc à ce moment-là, peut-être que avoir un smartphone européen va s'imposer de lui-même.
Souvenez-vous, on en avait un, hein, Alcatel, Ericsson, oui, Nokia,
Siemens.
Ouais. Siemens.
Tu te rappelles ?
Mais
oui, bien sûr.
Mais c'était il n'y a pas si longtemps.
Non, Bruno. Est-ce que tu peux nous montrer ton Trumpphone ? Je sais qu'il est caché sur ton bureau.
Il en a deux.
Tu peux nous montrer ?
Non, je suis en train de les charger.
Parce que l'autonomie n'est pas terrible.
Non, c'est pas tellement fort. Non, mais c'est ça. Mais mis à part tous les excellents éléments qui ont été mentionnés par mes collègues, moi, je veux quand même revenir sur le côté, j'allais dire, économique ou quand même frasque financière de la chose. Parce qu'il y a un an, quand on a présenté ces appareils-là aux fans de l'administration Trump, le modèle qui était présenté ressemblait pas mal plus à un iPhone de haut de gamme que cet appareil-là. Puis finalement, on se rend compte que les gens se sont vraiment fait berner. Ils ont payé l'équivalent de quelque chose comme 500 $ pour avoir un téléphone qui en vaut presque 100 $ Et ils ont attendu un an. Et là, en tout cas, quand ils vont le recevoir, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est sûr que ce qu'on avait promis, vous me direz, c'est équivalent du reste de l'administration, là. Mais on est loin, comme produit électronique, on est très loin de ce qui a été promis. Et puis après, mais il faut savoir que sur le réseau de Trump Mobile, parce que c'est pas qu'un téléphone, hein, c'est aussi un réseau cellulaire qui existe à la grandeur des États-Unis, on propose l'iPhone, on propose des téléphones de Samsung. Sauf qu'évidemment, là, on a voulu faire un coup d'argent parallèlement, et on a proposé le téléphone, et il y a malheureusement 600 000 personnes qui se sont fait peler le poil.
Mais je ne savais pas qu'il y a un réseau mobile Trump.
Oui, c'est un MVNO. C'est un opérateur mobile virtuel. Et avec un tarif qui est là aussi marketé.
Oui, 45-47.
45-47. Wow. Ça veut dire 45e président, 47e président. Tout est marketé et tout a l'air d'être un peu faux. Voilà.
Dingue, c'est incroyable.
Mais alors, ce qui est assez étonnant, et tu lançais le sujet sur les 600 000, c'était il y a un an. La popularité de Trump
a dégringolé depuis quand
même. N'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, s'il le lançait.
On va voir sur le bon coin si on a des Trump mobiles en vente à des prix cassés.
Tiens. Je vais me faire l'avocat du diable juste deux secondes. Pour une fois, je vais défendre Trump ou les gens qui font du business pour Trump Mobile. Tu sais, quand tu montes une start-up et que tu sors un produit, on dit toujours, si t'as pas honte de la première version, c'est que tu l'as sortie trop tard. Et donc, bah là, et c'est juste la première version. Bon, j'espère qu'ils ont un peu honte, mais il fallait pas qu'ils attendent plus longtemps. Peut-être que la V2 sera bonne.
Ça sera meilleur.
Ou qu'ils vont planter la boîte.
Et d'ailleurs, c'est la pression sociale qui a fait en sorte que l'appareil est sorti. Parce que moi, je me souviens, il y a environ quelques semaines, j'étais à votre émission, mon cher, et je parlais de cette histoire-là. Et suite à ce que j'ai dit, mais pas uniquement moi là, mais ce que d'autres médias aux États-Unis ont fait, ben très rapidement, les gens se sont tournés en dedans de 48 heures. D'accord. On envoyait des communiqués de presse, on envoyait des annonces aux gens qui avaient acheté en disant oui, le téléphone arrive et on vous le présente très bientôt.
Bon, écoutez, on laisse le Trump mobile se recharger parce que visiblement l'autonomie n'est pas terrible. Et enfin, il y en a encore, c'est une autonomie de 2 ans là, non ? Mine de rien, encore.
Deux.
Enfin, Trump, autonomie est encore de 2 ans. Voilà. On revient dans un instant. Bientôt 20h. Petite pause. On attaque notre deuxième partie de ce Tech & Co la quotidienne et on parlera de cette révolution chez Ferrari qui a fait couler beaucoup d'encre et grincer beaucoup de dents. C'est cette Ferrari électrique. On en parle dans un instant. C'est Tech & Co la quotidienne. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.